L'amour sut de telle sorte à me faire en moi ton portrait, que le peintre le plus doué si parfaitement ne saurait une telle image gravée. Tu as été par l'amour créé.
Vous écoutez À l'école de l'oraison, le balado des écoles carmélitaines d'oraison du Québec, saison 2024-2025, intitulé « Faire oraison, c'est ». Sixième épisode, février 2025, « Quand je fais oraison, je m'ennuie ». Cet enregistrement a été réalisé lors de la soirée mensuelle sur Zoom. Vous pouvez suivre l'actualité des écoles d'oraison sur le site www.lecarmel.org, section frères, onglet activités. Vous pouvez aussi nous écrire à école oraison zoom, tout attaché, à commercial@gmail.com pour vous inscrire et suivre en direct les rencontres d'oraison par Zoom. Bonne écoute.
Ne t'en va pas de ci, de là, mais si tu veux me trouver, oh moi, ne me cherche qu'en toi, âme, ne me cherche qu'en toi.
Ce soir, je voudrais continuer sur ce qu'on a commencé depuis le mois de septembre, c'est-à-dire continuer de décrire ce qui peut nous arriver durant l'oraison. Sachant que ce que nous décrivons ne se produit pas forcément pour tous et toutes, et puis ne se produit certainement pas tout en même temps. On a dit diverses choses, on a abordé diverses, non pas attitudes, mais situations qui se présentent dans l'oraison, qui peuvent se présenter dans l'oraison depuis le mois de septembre. Aujourd'hui, je voudrais continuer sur le mode « faire oraison c'est » ou « quand je fais oraison ». Et le thème de ce soir, c'est que quand je fais oraison, je m'ennuie. Et ça n'est pas une joke. Alors c'est drôle parce que tout à l'heure, à peu près 2 heures avant que nous nous rencontrions, nous étions les frères à l'oraison. Exceptionnellement, jeudi soir, c'est une adoration eucharistique, mais dans le fond, c'est l'oraison. Et je me disais que c'était pas forcément, c'était peut-être pas une très bonne idée d'avoir choisi ce thème cette fois-ci parce que je ne m'ennuie pas actuellement, personnellement, ni dans l'oraison, ni hors de l'oraison. Il reste que, pourquoi je propose cela? Alors je vais le déployer, mais parce que je ne l'ai pas trouvé un peu par hasard. C'est que dans mon expérience, ça m'est arrivé, ça m'arrive et ça m'arrivera encore de m'ennuyer à l'oraison. Et puis pour l'avoir entendu, je sais que je suis loin d'être le seul. Alors, on va explorer, je ne sais pas combien de. Si ça va, on ne va pas écrire une thèse de doctorat là-dessus, mais je me suis quand même un petit peu interrogé. Je voudrais partir d'abord de deux compréhensions de l'ennui qui ne sont pas la nôtre, du moins qui ne vont pas nous intéresser ce soir, mais qui vont nous aider à approcher quelque chose, à décrire. Ce qu'on veut, c'est décrire de la meilleure façon. La première chose, c'est qu'il y a des choses qui nous ennuient. C'est ennuyeux ce qui nous arrive, c'est ennuyeux ce qui m'arrive, c'est. Ça me cause bien des ennuis, ça me cause bien du trouble. Ça veut donc dire que je parle de quelque chose qui est embêtant, comme on dit. Ça apporte des inconvénients et une certaine inquiétude. Et puis l'inquiétude, les ennuis en question pourraient s'aggraver. Ça pourrait devenir vraiment très embêtant, vraiment très gênant. C'est l'un des sens que vous trouverez dans les dictionnaires à être ennuyé ou avoir des ennuis. Tout le monde comprend. C'est pas ça ce qui m'intéresse, ce qui m'attire à l'oraison. Je vais tout de même noter ceci, que dans cette première compréhension de ennuyer, je vous passe l'étymologie parce qu'en fait elle n'aide pas du tout, puis de toute façon on n'est pas là pour faire de l'étude de lexique. Ce qui m'intéresse tout de même, c'est dans le fait d'avoir des ennuis, puisque c'est tout de même le même mot, c'est que il y a une certaine dimension de. Comment dire de, d'abord, il y a quelque chose qui m'arrive et à quoi je vais devoir remédier. Va peut-être falloir un petit peu s'en occuper, parce que les ennuis, les choses, ça m'ennuie quand même que le chauffe-eau, il fuit. Bah, faut peut-être que je m'en soucie, parce que pour l'instant, c'est qu'une petite fuite, mais ça pourrait s'aggraver. Donc, il faut faire quelque chose. Ce genre d'ennui, ça pousse à agir. Bon. La deuxième chose, c'est que, ça c'est, tout le monde va comprendre, il y a des gens qui sont ennuyeux. Il y a des, et comme on dit en vieux français, il y a des fâcheux. Il y a des gens qui nous ennuient beaucoup. En français plus familier, on dirait qu'ils nous pompent l'air. Il y a des gens qui ont le don, hein, de nous pomper l'air. C'est des gens qui sont profondément ennuyeux. Non seulement ils racontent des choses qui sont ennuyeuses, mais en plus ils sont ennuyeux par le fait même d'être là. C'est un peu terrible. Il faut espérer que ce ne soit pas lié à leur identité personnelle la plus profonde, mais il reste que c'est comme ça. Je le note parce que d'abord, ça nous arrive. Puis il y a des choses qui sont ennuyeuses un petit peu dans le même domaine. Il n'y a pas forcément que les gens. Il y a les choses qui sont ennuyeuses. C'est ben ennuyeux ce qu'on écoute là. On pourrait passer à autre chose. Je le note parce que là aussi, ça nous pousse à l'action. Bah, pas une grosse action, là, mais les fâcheux, on les évite, et les choses ennuyeuses, on les délaisse. Mais je voudrais qu'on se souvienne, alors ça ne va pas être l'essentiel de ce qui nous arrive à l'horizon, mais je voudrais quand même qu'on se souvienne, et puis pour ceux et celles qui ont eu des enfants, et puis peut-être il n'y a pas si longtemps, certains en avaient des ados, peut-être que vous avez des ados, hein, le « je m'ennuie » de l'ado, c'est quand même... On a beaucoup de mal à croire que nous-mêmes, on était comme ça quand on était petit, mais on l'a été. Tous et toutes, à un moment ou à un autre. Il est intéressant cet ennui parce que, alors c'est l'ennui, bon, je galège un petit peu avec l'histoire de l'adolescent, mais c'est d'ailleurs une question, entre parenthèses, de savoir si aujourd'hui nos ados peuvent encore s'ennuyer, puisqu'ils ont un certain nombre de prothèses numériques qui font en sorte qu'ils s'ennuient jamais. Mais sauf que ces prothèses numériques, on les utilise au moins autant qu'eux, hein. Ce qui est assez étonnant dans l'ennui, alors pas seulement l'ado, mais nous aussi justement, parce qu'on ne parle pas d'ado ici, ce qui est curieux dans cette troisième forme d'ennui, c'est que d'abord, ce n'est pas les choses ou les autres ou les situations qui nous ennuient, c'est nous-mêmes. Je m'ennuie, c'est pronominal. J'ai besoin de personne pour m'ennuyer, ça c'est... Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais de fait, on n'a besoin de personne pour s'ennuyer. On n'a pas besoin d'un chauffe-eau qui fuit, on n'a pas besoin d'un voisin qui est un peu tannant, là. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul, puis c'est des choses qui nous arrivent. En même temps, c'est étonnant qu'on ne dise pas ça m'ennuie, mais c'est moi qui m'ennuie, je m'ennuie. Et par rapport aux deux situations que j'évoquais juste avant, deux autres compréhensions de l'ennui, une chose qui est remarquable, c'est que lorsque je m'ennuie, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pour ça que j'évoquais les ados, parce que quand on est parent, on se dit ben, fais quelque chose là. Faut un peu les bouger, les ados. Mais nous, on n'est plus des ados. Alors, parfois, il y a peut-être des gens dans notre entourage qui nous disent, bah, tu pourrais peut-être te bouger un peu. Mais vous comprenez que c'est pas cet ennui-là que j'évoque. C'est là, pour le coup, j'en arrive plus précisément à l'oraison. Et puis à d'autres situations un peu similaires à l'oraison, qui ne sont pas directement des situations de prière, mais qui sont quand même des situations, et là, c'est directement connexe avec l'oraison, où on est en nous-mêmes et on s'ennuie. Et première chose que je voudrais noter par rapport à ce que j'évoquais, des ennuis qui nous arrivent ou des choses ou des personnes qui sont un peu ennuyeuses sur les bords, c'est que justement, il n'y a rien qui nous arrive dans l'ennui. Lorsque je m'ennuie, il n'y a rien qui m'arrive. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et la deuxième chose, c'est que ça ne pousse pas à l'action. Parce que les choses ennuyeuses ou les gens ennuyeux, on cherche à les éviter. Les ennuis qui nous arrivent, on cherche à y remédier avant que ça devienne plus grave. Mais l'ennui, ben, pas tant que ça. Il n'y a pas de choses qui s'imposent. Il n'y a pas à fuir la personne ennuyeuse, ou il n'y a pas à remédier au petit ennui qui va devenir un gros inconvénient. Alors, ça peut paraître un petit peu banal de dire cela, mais évidemment, si y en a parmi vous qui ont la chance de s'être jamais ennuyé à l'oraison, ben, c'est surtout continuer. Enfin. Ne changez rien, en tout cas pas de ce côté-là. Cherchez pas à vous ennuyer. En plus, on ne peut même pas chercher à s'ennuyer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la vie qui sont stupides, hein, qui sont vraiment stupides, et en plus on le fait. Mais on ne peut pas s'ennuyer. On ne peut pas décider de s'ennuyer. Ça, c'est pas en notre pouvoir. C'est intéressant ça, parce que c'est pas en notre pouvoir. Et c'est là que je voudrais en venir, c'est que lorsque dans l'horizon, il m'arrive, bien honnêtement, et il faut que je le reconnaisse, faut bien que je reconnaisse que je m'ennuie. Si ça m'arrive, bien évidemment. Hein. Et il est vrai que ça m'arrive, mais ça ne m'arrive pas non plus à tous les matins. Mais ça m'arrive de m'ennuyer à l'oraison. Et ce qui est intéressant, ce qui est un petit peu ce sur quoi je voudrais attirer notre attention, c'est que dans le fond, L'ennui qu'on peut éprouver durant l'oraison, il peut passer un peu inaperçu. On peut ne pas le reconnaître et pourtant il est bien intéressant parce que, à la différence de ce que bien souvent on accuse en quelque sorte, au sens de accuser le coup, c'est-à-dire essentiellement les distractions, parce que je vous signale que très souvent dans l'oraison, quand on se parle d'oraison, très vite le sujet qui vient sur la table c'est les distractions. Mais dans l'ennui, il n'y a pas de distraction. S'il y avait des distractions, on ne s'ennuierait pas. Mais de fait, il n'y a pas de distraction, il faut croire, puisqu'on s'ennuie. Et la chose remarquable là-dedans, alors que dans l'ennui, a priori, rien n'est remarquable, la chose remarquable, c'est que, en fait, dans l'ennui, les choses ne viennent pas à moi. Et rien ne vient à moi dans l'ennui. Alors, quand je dis ça, je m'inspire un peu, bien que ce soit absolument pas dans cette direction-là que je veux aller, je m'inspire un petit peu de ce que, entre autres, Baudelaire, Charles Baudelaire, a beaucoup thématisé d'une façon très puissante, très belle, très saisissante, très déchirante aussi. Parce que c'est pas le petit ennui d'ado dont on parle là, c'est l'ennui profond qui déchire l'âme. En revanche, je ne vais pas du côté de Pascal, il y en a peut-être qui y pensent en ce moment, hein, pour l'homme, tout son malheur vient de ce qu'il ne sait rester dans sa chambre avec lui-même et qu'il ne cherche, il n'en cherche que le divertissement. Hein, l'ennui et le divertissement, vous connaissez cette. Là, je voulais un tout petit peu abréger, mais cette pensée de Pascal qui est assez célèbre, elle est très intéressante. Sauf que pour nous, elle est. J'allais dire, elle n'est pas si intéressante que ça, parce que nous, justement, on se retire pour faire oraison, et puis qu'est-ce qu'on rencontre? L'ennui. Donc on n'est pas comme ceux que Pascal, lui, il dit, bah, si les gens apprenaient à se retirer seuls dans leur chambre, ils ne seraient pas ennuyés. Bah, faut croire que non, parce que nous, on se retire, puis on éprouve l'ennui. Non, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que j'emprunte un petit peu à Baudelaire, mais sans non plus en trop filer, c'est que l'ennui, et puis cette fois très concrètement dans l'oraison, qui n'est pas un ennui à mourir, c'est juste parfois je m'ennuie. Ben, l'ennui, 1 heure, c'est long quand même, hein. Mais bon, on va pas mourir non plus. Ce qui est intéressant dans l'ennui, mais c'est pas facile de le voir, c'est que dans le fond, ça vient un petit peu, oh, pas me décaper, c'est pas vrai, mais ça vient un tout petit peu me rappeler que. Alors, ce que je vais dire est un petit peu moral et même moralisant, donc je vais pas m'étendre, mais d'abord, je suis pas le centre du monde. Mais c'est pas ça ce qui m'intéresse, c'est surtout que. C'est d'ailleurs presque une fausse piste. Non, ce qui est plus intéressant dans l'ennui, ce qui est plus remarquable, c'est que si je regarde un petit peu, les choses ne viennent pas à moi, disais-je. Les choses ne se présentent pas à moi. Les choses sont à distance et finalement, les choses ne sont pas, les choses, les êtres ne sont pas toujours et tout le temps intéressés à moi. Quand on est dans le registre de la distraction, en fait, on est toujours aux prises et en prise avec bah, le monde. Et là-dedans, le monde, c'est 95% de choses tout à fait légitimes, parce qu'en fait, c'est notre quotidien. Hein. Les distractions, elles ne vont pas chercher très loin, elles vont chercher à 3 mètres de nous. Hein. C'est des choses de notre quotidien, c'est des personnes qu'on aime, c'est des soucis réels, c'est des tâches à faire, c'est toutes choses qui font notre quotidien le plus normal, le plus légitime, le plus réconfortant aussi, etc. Mais dans l'ennui, il y a comme une forme de distance. Il y a comme un. Bah, pas un no man's land, mais il est un fait que je ne sais plus si c'est moi qui n'arrive pas à m'intéresser aux choses ou si c'est pas plutôt les choses qui ne s'intéressent pas à moi d'une certaine façon. Là, au moment où je suis à l'horizon, les choses ne viennent pas à moi, les êtres ne viennent pas à moi. Bon, c'est bien, mais ça nous apprend quoi? Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si les choses et les êtres ne viennent pas à moi, il y en a un aussi qui ne vient pas à moi, c'est Dieu. Parce que si je m'ennuie, c'est que Dieu n'est pas venu pour me dire, tiens, regarde, je veux bien que tu t'embêtes comme un rat mort, regarde, on va faire quelque chose ensemble. Ça, ce serait le fun, là, mais il est un fait que, chose qui ne se voit pas dans les distractions. Dans les distractions, on est toujours persuadé que si on avait moins de distractions, on verrait mieux Dieu. Bah, il est forcément là, mais il y a tellement de distractions que c'est un écran. Mais dans l'ennui, on constate que on n'est pas plus distrait que ça. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas distrait que, pouf, Dieu se dégage comme. La montagne qui sort des nuages. Dieu n'est pas disponible finalement. Et c'est pas parce que c'est notre faute. Et c'est ça ce qui est intéressant dans l'ennui. L'ennui, c'est pas notre faute, c'est pas nous qui avons décidé de nous ennuyer, c'est pas la conséquence terrible. Lorsqu'on est complètement assailli, alors les distractions, c'est toujours un grand sujet, mais on le sait fort bien finalement d'expérience, on sait beaucoup de choses sur les distractions, et on sait très bien qu'il y a des distractions qui, dans le fond, sont des choses qui sont lancinantes chez nous, puis je fais exprès d'utiliser le terme de lancinant, parce que ça veut dire que c'est référé à des choses qui sont souffrantes, qui sont douloureuses. Lorsqu'on rentre en oraison, on rentre avec toute la personne qu'on est, et ce qui nous tient à cœur y entre aussi. Et lorsque ce qui nous tient à cœur, c'est telle personne qu'on aime qui souffre, telle situation bloquée dont on voudrait qu'elle se débloque, ou telle, même des questions d'actualité mondiale, mais qui, pour une raison X, Y, Z, W, nous prennent très fortement, on n'arrive pas à s'en défaire. On est à l'horizon avec ça, et on se bat avec quelque chose. On se bat avec quelque chose. On sait d'où ça vient. Ce que je nous invite à considérer, c'est que dans l'ennui, il y a de la distance. Et je propose de regarder cela comme quelque chose de bon, qu'il y ait de la distance. C'est pas une distance hostile. C'est pas une distance en conséquence de quelque chose qu'on aurait mal fait, d'une considération qu'on serait incapable d'avoir pour les autres, pour le reste et pour Dieu. C'est simplement un état de fait. En fait, ce que l'ennui peut nous apprendre, à condition que ça ne devienne pas un spleen dévorant comme Baudelaire l'évoque, mais l'ennui qui parfois nous prend. C'est un peu longué quand même, cette oraison. Surtout que on avait rendez-vous, puis de toute évidence, on est tout seul. Parce que c'est ça parfois l'oraison. Hein. C'est que fixe rendez-vous à Dieu, puis on a un peu le sentiment qu'on est tout seul. Alors on peut croire qu'il est là, mais ça, on s'en est déjà parlé. Ben, c'est une chose d'y croire, puis Thérèse d'Avila ne dira certainement pas le contraire. Une chose, c'est de croire, autre chose, c'est d'éprouver qu'il est là. Alors, croire n'est pas commandé par l'éprouver, mais puisqu'on a déjà éprouvé que Dieu était là, c'est quand même plus difficile de le croire sans éprouver qu'il soit là. C'est très simple ce que je dis là, hein. Mais pourtant ça nous revient souvent cette affaire. Et ce que je trouve, il me semble qu'il y a un peu une, j'ose pas dire une leçon parce que je pense pas que nous cherchions des leçons, mais quelque chose à vivre, une autre façon de vivre notre ennui, alors peut-être pas sur le coup, mais au moins par après, peut-être pour l'apprivoiser. Peut-être pour considérer que l'ennui, c'est pas l'ennui qui est intéressant, mais c'est cette révélation un peu curieuse, qui n'est pas flagrante, qu'on ne se prend pas en pleine face, qui n'est pas fulgurante, qui n'est pas un eureka, qui est que le monde n'est pas tissé serré sur nous. En fait, il y a de l'espace, il y a de la distance. Quand il y a de l'espace et de la distance, il y a la liberté, donc aussi s'il y a de la liberté, il y a de la disponibilité, parce que s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de disponibilité. Il y a aussi peut-être quelque chose comme de la gratuité, potentiellement. Et, parce que c'est fort bien, mais ce que je dis là, ça pourrait être après tout de l'ennui qui n'est pas forcément référé à l'horizon, mais là on parle d'horizon. Si j'avance d'encore un pas, il y a peut-être aussi l'occasion de reconsidérer ce que. Dans le fond, ce que j'attends de l'horizon et de ce que j'attends de Dieu. Parce que dans l'ennui, c'est pas de la déception, hein, soit dit en passant. C'est important, ça. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles on travaille, il y a des choses qu'on attend, il y a des choses vers lesquelles on est tendu, des choses, des situations, des êtres, tout ce que vous voulez. Et puis on est déçu parce que ça ne se présente pas. Mais l'ennui n'est pas la déception de quelque chose qui ne vient pas. L'ennui, c'est l'ennui. Point. C'est tout. Et ça, c'est une chose fort intéressante. Parce que, considérant l'oraison dont je souhaite quand même, enfin, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, je souhaite quand même non seulement croire que Dieu est là, mais tant qu'à faire, si je peux, d'une façon ou d'une autre, en avoir une certaine forme de sentiment, je ne vais pas être contre ça. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi. Si Dieu se manifeste, je vais pas lui dire non, c'est correct, je crois en toi, c'est pas nécessaire que tu fasses coucou, je sais que tu es là. Abstiens-toi. Je dis cela en galégeant, mais nous le savons parce qu'on l'a tous déjà vécu, et puis on sait aussi qu'on risque de le revivre, qu'à des fois c'est souffrant, qu'il n'y ait Aucun signe, ça on se l'a déjà dit. Or, l'ennui n'est pas une souffrance insupportable. Il y a des oraisons, on s'accroche, hein, puis on regarde la montre. C'est-tu possible que ma montre soit en panne? Parce que c'est long, parce que c'est difficile, et parce qu'on ne sait pas pour quelle raison. Alors, peut-être qu'en y repensant, en essayant de lâcher un petit peu les bouts sur lesquels on a tiré, serré les voiles, on réalise qu'il y a peut-être autre chose, ou peut-être aussi qu'il n'y a aucune explication, et que, ben voilà, on s'en est parlé lorsqu'on parlait de la nuit il y a déjà 1 an ou 2 ans. Ben, c'est une nuit sans étoiles. Elle n'est pas privée d'étoiles, comme disait un cistercien célèbre, mais elle est sans étoiles. Mais l'ennui ne nous parle pas de ça. L'ennui ne nous parle pas d'une privation souffrante. L'ennui nous parle simplement de l'ennui. Et j'en reviens à cette question. Est-ce que je dois faire quelque chose alors? Est-ce que je dois tâcher de sortir de mon ennui qui pourrait virer à la léthargie pour appeler Dieu plus fort? En fait, je ne sais pas. J'ai pas de solution ni règle, j'ai pas de solution parce que je ne suis pas sûr que ce soit un problème. Je ne suis pas sûr que ce soit le signe d'une fausse route. Je dis cela parce que lorsqu'on parle de nuit ou de sécheresse, et Jean de la Croix l'évoque, on commence par chercher s'il n'y a pas quelque chose qui gêne, qui bloque, qui convient pas. Alors Jean de la Croix dit, bah, parfois on trouve, puis parfois on ne trouve pas. Si on ne trouve pas, c'est que c'est pas de notre bord. C'est pas de notre bord. On est vraiment en train de passer dans la nuit, et j'y pense parce que j'ai sous les yeux le très très beau livre La nuit obscure, illustré par les Carmélites de Paris, sauf que là c'est la partie heureuse, hein. Mais la nuit, il n'y en a qu'une, on le sait. Dans l'ennui, malgré l'allitération avec la nuit, dans l'ennui, on a l'impression qu'il n'y a même pas de moteur. L'impression que c'est étal. Concernant cette question de savoir, mais est-ce que nous avons quelque chose à faire? Je crois qu'il y a à l'accueillir comme tel, cet ennui, et à le considérer, le regarder intérieurement, comme le fait que le monde qui m'entoure et le monde tel que je voudrais le vivre, c'est-à-dire le monde avec Dieu, ne m'est pas disponible. Et c'est pas souffrant. Et c'est une certaine façon, non pas de tromper l'ennui. L'ennui, on ne le trompe pas. Hein. Je sais qu'il y a la très belle expression québécoise pour se désennuyer, là, je trouve ça très beau. En France, on ne connaît pas cette expression-là. Mais il ne s'agit pas de se désennuyer, il ne s'agit pas de tromper l'ennui. Il s'agit peut-être de, si l'oraison est, souvenez-vous de ce qu'on disait sur le livre de Demeure il y a déjà un certain temps, si l'oraison est un lieu où on peut s'installer et pas simplement marcher, peut-être que dans notre espace intérieur qu'est l'oraison, il y a peut-être à s'installer pour considérer cet ennui. Et le considérer justement comme quelque chose d'heureux, même si c'est inconfortable, parce que ni le monde, ni Dieu ne m'est disponible. Et c'est important parce que ce que je dis là, c'est, on peut le savoir avec sa tête. On le sait bien que personne ne met la main sur Dieu, mais on n'est pas stupide. Et on sait aussi d'expérience qu'on ne met pas non plus la main sur le monde. Mais ça me paraît, j'ai failli dire précieux, puis je vais peut-être le dire, mais c'est un peu précieux de dire précieux. Ça me paraît fécond d'accueillir lorsqu'il se présente l'ennui, en acceptant qu'il soit un ennui, là, et de l'accueillir en se disant que, eh bien voilà, en fait, l'ennui ne me barre pas le passage, l'ennui ne met pas une souffrance imposée, intolérable, mais l'ennui, tout simplement, pose une distance que je ne peux pas manipuler, une distance qui n'est pas infranchissable, qui est juste une distance suffit avec le monde. Et puis aussi, surtout avec Dieu. Pas une distance infranchissable, parce que ça, ce serait terrible. C'est comme un, non pas un retournement, mais c'est comme une façon aussi de considérer, ou plutôt, je vais dire les choses autrement. Si on reprend le début de l'évangile de Marc, ce qui nous est d'abord un ennui peut nous apparaître éclairé par cette première phrase de Jésus, c'est la première phrase qu'il prononce dans l'évangile de Marc, le royaume de Dieu s'est fait proche, Retournez-vous. On traduit souvent convertissez-vous, et le problème c'est que convertissez-vous est devenue une formule religieuse très très forte, très juste, mais très très forte, et qui a complètement perdu son sens d'expérience spatiale, de spatialité. Or, la première chose que Jésus dit, c'est que le royaume de Dieu s'est approché, il s'est mis à proximité. Alors, retournez-vous. Ce qui laisse entendre que le royaume de Dieu nous arrive toujours un peu dans le lot, d'ailleurs. L'ennui n'est certainement pas à chercher. De toute façon, on se rassure tout de suite, on sait que l'ennui, on n'arrivera pas à se donner des distractions, ça, on est capable de le faire, mais se donner de l'ennui, ça, on n'y arrive pas. Donc, au moins, tranquille de ce point de vue-là, l'ennui, on ne choisit pas. Quand ça nous arrive, ça nous arrive. Ce que je propose, c'est que lorsqu'il nous arrive, je ne pense pas que ça nous arrive si souvent que ça, il y a des choses qui nous arrivent beaucoup plus souvent que cela dans l'horizon, mais lorsqu'il nous arrive, le considérer autrement, le regarder comme finalement une espèce de mise dans le temps et dans l'espace, d'appréhension dans le temps et dans l'espace, de la distance et d'une distance heureuse, nécessaire. La distance qui permet, qui précède et qui permet la communion, qui précède et qui permet la proximité. S'il n'y a plus de distance, c'est un écrasement. Voilà, c'est somme toute très simple ce que je vous évoque ce soir, c'est c'est même peut-être un peu étrange du reste, pour celles qui disent, bon non, moi l'ennui, j'aurais aimé ça qu'ils parlent plutôt des distractions, parce que c'est ça mon combat numéro un. Mais En fait, je maintiens deux choses. La première chose, c'est que, en fait, c'est comme une. C'est pas une conséquence logique de ce que je viens de dire. C'est dans le fond ce que j'avais depuis le début, c'est que je pars du principe que s'ennuyer dans l'oraison, c'est encore faire oraison. Quand je fais oraison, je m'ennuie. Ça fait partie de l'oraison. Parce que ça fait partie de la vie. J'aurais pu dire, parce que j'en suis très marqué, que c'est pas la première fois que j'entends un homme, une femme. En poésie, qui dit ben, pas de poésie sans ennui. Hein. C'est pas un carburant. C'est pas un carburant, c'est pas pas de poésie sans substances qui vous font écrire des choses bizarres. C'est pas ou pas de poésie sans souffrance. Nul ne peut faire de la poésie s'il n'a souffert jusqu'à verser tout le sang de son cœur. Non, c'est très étonnant d'entendre des poètes, hommes et femmes, qui disent plus simplement non, non, c'est pas ça. C'est juste que sans ennui, il n'y a pas de liberté pour les choses autour de nous. On est trop au centre et on est trop à les posséder. L'ennui laisse aller les choses. Et l'ennui nous met dans une impuissance qui n'est pas l'impuissance par rapport à une action qu'il faudrait avoir. Mais simplement, c'est même pas une impuissance, c'est une situation qui est déroutante, hein, parce que dans l'ennui, il y a quelque chose qui est un petit peu déroutant, puisqu'on ne sait même pas quelle est la cause de l'ennui. L'ennui n'a quasiment pas de cause, finalement. Et les poètes, hommes et femmes, enfin, en tout cas pour un certain nombre que je connais, dit cela, ben, pour écrire, il faut commencer par connaître un petit peu de l'ennui. Pas du grand spleen de Baudelaire, c'est pas du tout cette ligne-là. Quelque chose de l'ennui. Alors, je reviens à l'oraison. Je pense, je dis pas que si vous avez jamais, si vous êtes jamais ennuyé en oraison, c'est que vous avez jamais fait oraison, certainement pas, bien évidemment. En revanche, s'il vous arrive de vous ennuyer à l'oraison, bon, c'est pas l'autorité du frère Martin qui compte beaucoup, mais c'est plutôt le témoignage que je vous apporte. Je pense que ça fait partie de l'oraison. Et la deuxième chose, c'est que si ça nous arrive, comme un certain nombre de choses qui nous arrivent dans l'oraison, nous avons toujours la liberté intérieure d'accepter cette situation. Et de l'accepter pour tâcher aussi de la laisser dire ce qu'elle a à nous dire. Et l'ennui, curieusement, a quelque chose à nous dire.
Car tu es ma chapelle, ma maison, ma demeure. À tout moment j'appelle, quand je trouve fermée la porte de tes pensées.
Vous avez écouté la sixième rencontre autour de l'oraison proposée dans le cadre de l'école d'oraison par Zoom. Vous pouvez nous rejoindre pour ces soirées mensuelles proposées en visioconférence. L'enseignement est suivi d'un temps de questions et une soirée additionnelle permet de prolonger les échanges. Écrivez-nous à École Oraison Zoom, tout attaché, à commercial gmail.com pour recevoir les liens de connexion. Cette activité est sans frais. Les écoles d'oraison carmélitaines sont animées par la famille du Carmel. Outre les soirées Zoom, plusieurs groupes se réunissent pour partager autour de textes de Thérèse d'Avila, Jean de la Croix et bien d'autres encore. Plus d'informations sur le site www.lecarmel.org. Merci de nous avoir écoutés.